musique.
Carabanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
For the lockout.
Vive mon pantalon.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Vive.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Radio Libertaire, c'est 89.4 en région parisienne et dans le Val-de-Marne, bien sûr, radio-libertaire.net. Il y a un autre lien pour écouter sur Internet, c'est anarchiste.info. Je vous recommande vivement ce lien initié par nos camarades de la FA d'Ivry. Et donc l'émission Les Oreilles Libres un peu particulière aujourd'hui puisque nous allons parler du festival Son d'hiver. Bonjour Fabien.
Bonjour, est-ce que tu m'entends?
Alors Fabien, le festival Son d'hiver, avant tout, faut parler de ce qu'on vient d'écouter.
Alors ce qu'on vient d'écouter, c'est une pièce de Joëlle Léandre, la contrebassiste, improvisatrice et compositrice aussi. Joëlle Léandre, bien connue, j'espère, de vos services. Et c'est une pièce inédite qui s'appelle Crin Crin. Et une pièce inédite qui a été faite pour un disque anniversaire qu'on a sorti pour la 30e édition du festival. Un disque qui s'appelle We Have Something to Tell You, avec une série de commandes qu'on a passées à certains artistes, dont Joëlle Léandre, qui nous a exécuté cette superbe pièce, qu'il faut écouter au casque, surtout à la fin. Je pense qu'il y a des choses qui vont beaucoup plaire à vos auditeurs.
Ah oui. Alors, après Joëlle Léandre, est-ce que tu peux nous dire, le festival Son d'hiver 2021, l'édition 2021, l'édition est-elle annulée ou sinon, quelle forme prendra-t-elle?
Alors, effectivement, annulé dans sa forme qui était prévue, c'est-à-dire celle qu'on aime, hein, celle où on peut accueillir un public nombreux et qui écoute des musiciens et des musiciennes qui nous viennent d'un peu partout dans le monde. Ça, effectivement, on n'est pas en capacité de le faire cette année. On y a cru assez longtemps parce que fin novembre, à la fin du deuxième confinement, on nous avait annoncé un calendrier de réouverture des lieux culturels qui nous permettait d'espérer pouvoir faire le festival cette année. Et puis les semaines ont passé et voilà, les perspectives se sont ont disparu petit à petit et il a bien fallu faire face à l'idée qu'on pourrait pas le faire tel qu'on avait prévu. Mmh. Pour autant, la vie continue hein, malgré tout et il y a des choses qui vont être maintenues, il y a des résidences de création qui vont se faire quand même, des répétitions qui étaient prévues qui vont se faire quand même, des masterclass qui étaient prévues et qui sont possibles de faire et qu'on va faire quand même. Et en parallèle de toutes ces actions qui seront possibles, on essaye d'inventer différents formats originaux, enfin qu'on espère, qu'on imagine originaux. En tout cas, on essaye de se creuser un peu les méninges pour inventer des choses. On ne va pas révolutionner le monde, mais en même temps, on passe quelques commandes d'œuvres radiophoniques, par exemple.
Ah, donc très bien.
Ouais. On a passé quelques commandes dans ce type. On va faire il y aura des collaborations entre artistes visuels et musiciens pour des formats vidéo, mais où l'image a une vraie valeur artistique, entre guillemets. Et puis voilà, on essaye d'imaginer au jour le jour un peu avec nos partenaires ce qu'il est possible de faire. Ce qui est vrai, c'est que tout se fait un peu en dernière minute et que voilà, on construit les choses heure par heure. C'est très compliqué parce qu'en fait, en réalité, tous les deux jours ou toutes les semaines, on nous impose de nouvelles règles du jeu qui nous empêchent souvent d'avancer puisque c'est plus des nouvelles restrictions que de nouvelles libertés. Ouais. Voilà, c'est compliqué, mais on baisse pas totalement les bras. On essaye de rester dans une spirale un peu de où on entretient un peu une forme de créativité et d'optimisme dans un climat qui pourtant nous pousse clairement plus vers le bas. mais voilà, pour autant, évidemment, il y aura beaucoup de concerts qui devaient se faire où rien pourra être sauvé. Il y a quelques reports, mais très peu parce que on n'a pas vraiment envie, on n'a pas de visibilité déjà sur l'avenir, sur les prochains mois, on n'a aucune visibilité. Ouais. On ne sait pas. Dans les musiques qu'on fait, on se dit que reporter toute la programmation 2021 sur 2022, ça ne fait pas forcément sens parce que déjà, on ne sait pas quel projet sera encore d'actualité, qu'est-ce qu'on pourra faire à ce moment-là, quel artiste voudra encore jouer la musique qu'on avait prévue cette année ou voudra faire totalement autre chose. Donc, on est plutôt sur des annulations en essayant d'indemniser les artistes au mieux de nos possibilités. Il y a quand même des aides de l'État pour ça, donc on fait au mieux, mais c'est beaucoup de paperasse. Et puis voilà, il y a ces formats. On va monter une plateforme en ligne qui va héberger tous les formats qu'on essaye de réunir, les commandes qu'on aura passées. Ouais. Et on rêve quand même au printemps, quand ce sera possible, d'imaginer une journée symbolique de clôture de l'édition 2021 où on pourra à la fois diffuser, projeter toutes les commandes qui auraient été réunies dans cette période et puis avoir un ou deux concerts live et un moment d'échange avec le public et les artistes aussi dans un de nos lieux partenaires à une date qui reste évidemment à préciser dans les prochaines semaines, si tant est qu'on puisse le faire d'ici l'été.
Ah oui, d'accord. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, tu peux lister, parce que là, tu nous parles de choses en général, mais est-ce que tu as des dates précises pour ou tu dis que tu construis au jour le jour ?
Alors, quelque chose que je peux, au moins sur la partie janvier, on va dire, une des choses qui est maintenue, c'est le concert de Famuidu Donmoy au Quai Branly. Famuidu Donmoy, c'est le percussionniste de l'Art Ensemble of Chicago. Ouais. C'est un des musiciens quand même phares afro-américains qui habite à Marseille, donc il est proche, assez proche de nous, et c'était possible de maintenir ça. Pour éviter, on va dire, le format streaming pour lequel je n'ai pas vraiment d'affinité, on essaye d'imaginer un format un peu mixte. Je ne suis pas sûr que ça révolutionne totalement le genre, mais on essaye d'imaginer Famuidu Donmoy dans les collections du Quai Branly en train de parler de son rapport à l'Afrique, en rapport avec un ethnomusicologue et des œuvres d'art qu'ils ont là-bas, et des instruments ancestraux qu'ils ont là-bas, et de le faire parler un peu de son rapport à l'Afrique, du rapport du jazz aussi à l'Afrique, et pas forcément qu'à l'Afrique d'ailleurs, et d'avoir une espèce de format mixte entre pénétrer l'intimité d'un musicien, de son histoire, de sa musique, et d'avoir quand même une séquence live qui sera ouverte, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, il est possible de faire des représentations, il est possible de faire des concerts uniquement pour les professionnels, c'est-à-dire les programmateurs, les journalistes et les officiels, donc élus à la culture, représentants de la, enfin les conseillers DRAC, de l'ONDA, etc. Ça, c'est possible.
Ah oui.
Donc, pour quelques propositions qu'on a vraiment envie de maintenir, parce qu'on pense que c'était souvent des résidences qui nécessitent plusieurs jours de répétition, ah oui, et qu'on maintient, on va quand même maintenir et inviter les personnes qui sont autorisées à venir. Mais ça souligne quand même une espèce de bizarrerie qu'il y a deux classes de citoyens désormais. Il y a les professionnels qui ont le droit de voir des concerts et puis il y a les autres.
Eh ouais, c'est très étrange ça. Les animateurs de Radio Libertaire, tu crois pas qu'on...
Si t'as une carte de presse, pourquoi pas. Ah, mais je suis pas sûr que tu l'aies. Etc.
Bon, tu sais, ça
ça se trouve.
Ça se trouve, ça se trouve, oui. Ça, c'est clair. Mais alors, là, je suis allé sur votre site. Il y a rien de trop annoncé. Est-ce que, comment on va être au courant de tout ça?
Ça va venir, mais ouais, c'est vrai que ça demande du temps parce que tout réinventer en quelques jours, en vérité, c'est très très compliqué. Ça implique énormément de gens, de partenaires, de modalités. Et que tant qu'on n'a pas des confirmations officielles que tout est calé, on ne peut pas l'annoncer. C'est aussi par respect pour les interlocuteurs. Bien donc sûr, ouais. Je pense qu'en début de semaine prochaine, j'espère qu'on pourra avoir une première trame, on va dire, de ce qu'on pourra proposer sur cette période et qui peut-être s'agrémentera au fur et à mesure. On est aussi en train de monter une plateforme un peu, donc on le crée sur pièce, donc une plateforme qui hébergerait tous les podcasts radio, parce qu'on va faire un peu de format radiophonique, toutes les commandes qui viendront agrémenter, et plus toutes les quelques captations qu'on essaiera de faire de manière un peu originale, j'espère qu'on y arrivera. Tout ça sera hébergé sur cette plateforme qui devrait être mise en ligne, j'espère, courant de semaine prochaine.
Ah oui.
Voilà.
D'accord. Bon, bah alors, je voudrais savoir quand tu as élaboré la programmation, donc c'est bien en amont, je pense que c'est un an avant quand tu commences à réfléchir à une programmation, au moins, peut-être même plus, mais est-ce que tu avais, parce que maintenant le Covid, là, ça fait un an, est-ce que tu avais ce spectre qui planait déjà sur l'édition 2021? Est-ce que tu as décidé de ne pas en tenir compte ou est-ce que tu as intégré ça comme risque?
Si tu veux, l'année dernière, nous, on a eu la chance en 2020 de pouvoir faire le festival sur l'hiver. Ce qui est une chance parce que beaucoup de mes collègues, malheureusement, ont dû annuler en grande partie. Sonic Protest a annulé une partie. Ouais. Bon, il y en a quelques-uns qui ont réussi à passer entre les gouttes, un peu à l'été. Mon collègue à Météo, j'étais avant, a réussi à faire quelque chose. Un peu en septembre, octobre, il y a eu quelques trucs. Moi, j'ai vu quelques concerts à ce moment-là, mais. Nous, on a réussi à faire le festival 2020. Donc, notre contrat, quelque part, il était rempli pour 2020. Donc, c'est vrai que quand la crise en mars est arrivée, c'était un truc totalement inconnu pour nous tous. Je pense que c'était le premier confinement. C'était un moment un peu très bizarre où on ne savait pas tellement dans quoi on mettait les pieds. Moi, à ce moment-là, sincèrement, j'avais aucune idée de jusqu'à quand potentiellement ça pourrait. Et en tout cas, je ne m'imaginais vraiment pas que. En janvier 2021, on serait encore les deux pieds dans cette situation. Ouais. Donc, j'ai commencé tranquillement à réfléchir à l'édition 2021 au cours du printemps, c'est-à-dire avril, mai, juin, grosso modo. Donc, à la fin du confinement et au début du déconfinement, l'été s'est passé quand même globalement plutôt bien. On a pu revivre à peu près normalement.
Ouais.
Les restaurants étaient ouverts. Bon, les salles n'étaient pas totalement ouvertes, mais les cinémas étaient ouverts. Ouais. Enfin, on a pu aller se mettre au vert un peu pendant l'été. Et du coup, les choses se sont un peu matérialisées, on va dire, sur la programmation 2021 à ce moment-là.
Mmh.
À un moment où tout semblait possible, en vérité. Donc on s'est pas trop mis de frein, même si j'ai fait attention à avoir un peu moins d'artistes étrangers aussi. J'ai fait attention à peut-être faire travailler des artistes étrangers qui vivaient en France, voir comment on pouvait jouer pour limiter les risques, on va dire. Ouais. Donc on l'a fait, on a créé ce programme et puis voilà, les semaines ont passé, on nous a reconfinés fin octobre alors que le dossier de presse était sorti, que le ministère nous avait assuré qu'il était possible d'avoir des laissez-passer exceptionnels pour les artistes internationaux pour venir, que la com était dans les starting blocks, enfin voilà. Du coup, on a un peu tout retardé. Au mois de novembre, bah, on était un peu dans l'expectative. C'est vrai qu'à ce moment-là, on se disait, bon, ça commence à sentir mauvais.
C'est clair,
Et puis, fin novembre, notre président prend la parole en disant que les théâtres, les lieux culturels vont rouvrir mi-décembre, que au 20 janvier, a priori, tout va être réouvert. Donc nous, on est fin novembre, on se dit, bon, on a la parole présidentielle qui nous autorise, donc on y va à fond. Il n'y a rien qui nous empêchait de le faire à ce moment-là.
Clairement.
Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Les salles ne rouvrent pas mi-décembre comme prévu. On nous annonce plus ou moins clause de revoyure début janvier. On se dit, bon, il va y avoir les vacances. De toute façon, ça ne sert à rien qu'on prenne une décision maintenant. On décide quand même de sortir le programme, mais sans ouvrir la billetterie, pour dire aux gens, voilà ce qu'on avait imaginé pour voilà ce qu'on avait rêvé pour cette édition 2021. Et puis début janvier, on a bien compris que grosso modo les lieux ne réouvriraient pas en janvier dans un premier temps, et puis maintenant en février probablement pas non plus, enfin c'est quasiment sûr, et que du coup il fallait un peu au pied levé prendre une décision, c'est-à-dire il y a plusieurs possibilités qui s'offraient à nous. Soit on annule tout, on indemnise à hauteur de ce qui nous est autorisé de faire par les tutelles et avec les aides de l'État qui sont prévues pour ça, et on se donne rendez-vous en 2022.
Ouais.
Soit on reporte un autre moment dans l'année. J'y ai pensé parce que finalement l'année 2021 est encore longue. Hein, mais ça posait plein de questions. D'abord quand, parce que on sait pas.
T'aurais pu faire son de printemps, son d'été.
J'avais pensé faire son d'hiver en été, oui, pourquoi pas. monter un chapiteau dans le Val-de-Marne pendant 3-4 jours et faire un festival. Mais qui sait si on sera autorisé à le faire en juin, on n'en sait rien.
Mais ça, ça reste une idée pour toi ou...
Non, on a renoncé à cette idée pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur les mois à venir.
Ouais.
Que laisser toute l'équipe et les musiciens en tension,
en
espérant quelque chose qui n'aura peut-être pas lieu après tout ce qu'on va traverser, je pense que ça serait vraiment la goutte d'eau qui nous mettrait vraiment au fond du seau. La deuxième, c'est que nous, on est un festival itinérant sur le Val-de-Marne où on travaille avec énormément de lieux partenaires qui, eux, annulent et reportent déjà depuis des mois les spectacles. Le calendrier au printemps est complètement bouché, il n'y a plus une date de libre. C'est-à-dire que si ça rouvre, ils vont avoir des représentations 5-6 fois par semaine pour tout rattraper. Donc ça allait être de toute façon très compliqué de trouver une date avec les partenaires dans cette temporalité-là. Et par ailleurs, je pense que si jamais ça devait rouvrir en juin, il y aurait tout le monde. Enfin, il va y avoir. Les vannes vont être grandes ouvertes. Il va y avoir une multitude de choses qui vont se faire. On va complètement passer inaperçu, probablement. Mmh. Et que du coup, on s'est dit que les conditions n'étaient pas tout à fait réunies pour reporter. Je pense peut-être on l'aurait pu le faire dans de meilleures conditions si on avait su dès le deuxième confinement que en gros ça allait pas être possible. Peut-être qu'on aurait eu le temps d'imaginer ça. Ouais. Mais là, les délais, on va dire entre décembre, janvier, n'étaient pas suffisants pour pouvoir imaginer quelque chose de satisfaisant au mois de juin.
Moi, je te sens un peu énervé. Un peu en colère, non ?
Je pense que je suis pas le seul, non ?
C'est clair.
D'ailleurs, soit on est, il me reste encore un tout petit peu d'énergie pour être énervé, on va dire, pour être en colère, mais sinon on est totalement au fond de la dépression.
C'est ce que j'avais prévu de...
Disons que je pense que c'est même encore pire pour les artistes qui sont empêchés de travailler, eux, puisque certes on leur autorise certaines répétitions, mais enfin le métier de musicien c'est de jouer devant des gens quand même avant tout. Et ça, les musiciens, musiciennes, comédiens, comédiennes et circassiens et tous les artistes, et qu'aujourd'hui ils sont complètement empêchés, il y a des décisions qui nous semblent absurdes pour le moins, et qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'évidemment on ne peut pas être satisfait de ça, mais qu'en même temps on n'a pas tellement de possibilités de pouvoir changer les choses. Dans les limites de la légalité en tout cas. On est effectivement énervé par cette situation. On pense qu'il aurait pu être possible de faire des choses quand même à quitte à réduire encore un peu plus la jauge, quitte à je sais pas, il y avait des quitte à faire des représentations que pour les scolaires, quitte à je pense que pourquoi les musées sont pas ouverts aujourd'hui alors que les grandes surfaces sont ouvertes, pourquoi on ouvre les galeries d'art qui vendent leurs œuvres et pourquoi dans les musées eux les laissent eux ne sont pas autorisés. Bon, Voilà, si on ne sait plus tellement à quel saint se vouer, à quel si on doit encore espérer. Toutes les semaines, on vient nous dire que ça sera peut-être pour plus tard, mais on ne sait pas quand.
Ah oui, c'est ça.
Et,
en fait.
Oui, l'attente est. Et on est en manque, quoi, clairement. Enfin, moi, je me nourris de culture, de concerts. Mon métier, c'est de voir des concerts aussi. Ouais. Et j'en ai vu 8 en 2020, alors que j'en vois plus d'une centaine d'habitude. Enfin, ouais, voilà. Et puis les gens ont besoin de ça, ont besoin de rêver aussi. Voilà. Bon, tout ça, ça nous manque. On est très déçus et un peu en colère de pas pouvoir faire ça, pas pouvoir faire le festival, ou en tout cas pas pouvoir le faire dans les formes qui nous sembleraient nous réalisables. Mais bon, voilà, on est comme tout le monde, hein, finalement. Hein. On est un peu abattu chaque semaine d'entendre. Un nouveau confinement, un nouveau couvre-feu.
Voilà, et puis des nouvelles annonces qui se. C'est des annonces d'annonces, en fait. Hein. Le 20 janvier, on va vous dire que. Je sais pas quoi.
Bon. Oui, et puis au final, il y a des annonces surtout de rien du tout, en fait.
Ah bah oui, voilà.
Bon, ça finira bien par arriver. Hein.
Ah oui, c'est sûr.
Quand, je sais pas, mais en attendant, il faut essayer. Voilà, on essaye d'essayer d'imaginer des choses aussi. D'être en lien avec les artistes, ouais. Et de laisser personne sur le carreau, on sauve les meubles, quoi, hein, on est là. Hein.
Alors, tu sais qu'il y a quand même des initiatives qui se font par Internet, notamment les concerts en direct sur Internet, on dit en anglais le live stream. Il y a des musiciens qui refusent catégoriquement, hein, de faire ça, de jouer sans public devant des caméras. C'est, pour d'autres, c'est une alternative, et tu en as dit quelques mots. Il me semble que tu n'es pas très enthousiaste à cette idée. Qu'en penses-tu ?
Disons que j'avais pas de. Jusqu'à présent, il arrivait pendant les festivals Son Hiver que les caméras d'Arte ou de Culture Box, maintenant ça a un autre nom, mais viennent filmer les concerts.
Et oui, je me souviens bien.
Ça arrivait, ça nous a jamais posé de problème parce que ça documentait un moment de vie, de communion qui avait réellement lieu entre un public et des artistes. C'est des archives intéressantes. Moi, j'adore voir un vieux concert des années 80 ou 70. Voilà. Là où c'est très différent ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est des captations en direct de concerts qui en fait ne sont pas vraiment des concerts parce qu'il n'y a personne devant eux en fait. Les gens sont à droite, à gauche, chez eux. Est-ce qu'ils écoutent vraiment ? On ne sait pas. Est-ce que... Alors, on compte les nombres de vues. Oui, il y a 3000 vues. Est-ce que c'est des gens qui ont écouté une minute ou 5 minutes ? On n'en sait absolument rien. Enfin, c'est très difficile à savoir. Est-ce que tu as fait un sondage autour de toi pour savoir si ça intéressait vraiment les gens ? Est-ce que toi, tu as fait l'expérience ?
Moi, j'ai fait l'expérience. J'étais très heureux lors du premier confinement de voir mon groupe tchèque favori, Ouch Medoma, et d'autres groupes tchèques, parce qu'ils faisaient ça, eux, contrairement à ici. Direct, ils ont fait des concerts devant un public restreint, à savoir les techniciens du lieu. Quoi.
Ouais, ouais.
Et j'étais quand même super content. Les premiers, tu vois, que j'ai vus, parce que je manquais, comme tu disais tout à l'heure, on manquait de concerts. Et là, c'était, bon, voilà.
Alors moi, j'ai fait mon métier, hein. Je suis allé écouter certains. Ma position personnelle, finalement, n'a pas vraiment d'importance. Moi, je représente un lieu, et ce qui compte, c'est comment nous, on essaye de voir les choses et ce qu'on peut arriver à faire. Moi, ça m'a très peu intéressé parce qu'en fait, j'avais beaucoup de mal à rester concentré heure sur un concert devant mon écran. Autant, j'ai aucun mal à écouter un disque au casque et je suis très heureux. Ouais. Mais l'image, je trouve, n'apporte rien. Ouais. C'est-à-dire que si ton groupe favori, tu l'as vu, mais si finalement, il n'y avait pas l'image, est-ce que ça aurait changé grand-chose ?
Ah, j'étais content. Ouais, c'est vrai.
Il y a peut-être une sorte de fétichisme de les voir. Ça fait quelque chose, peut-être.
De voir le trompettiste qui fait toutes ses fausses notes et tout. Il les fait pas,
Notes
sur le
disque. Ce que je regrette, c'est plutôt dans la forme que ça a pris. Alors, le problème, c'est que ça demande peut-être des moyens, mais je regrette souvent que l'image n'ait pas été traitée d'un point de vue artistique. Ça, la réflexion que je m'étais faite. C'est que je me dis, quitte à avoir de l'image, si c'est juste pour voir un machin en train de. Autant qu'il y ait une collaboration soit avec un artiste visuel, soit avec où il y ait une vraie création vidéo pour que finalement l'image soit aussi en elle-même une œuvre d'art, potentiellement. Enfin, qu'il y ait cette ambition-là, cette volonté-là. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à ça parce que c'est un débat qu'on avait entre collègues. C'est quelque chose qui a pris une place, qui a comblé un vide en vérité. Ouais. C'est-à-dire que. Alors effectivement, certains artistes sont totalement contre, ne le feront jamais. beaucoup finalement reviennent dessus au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent rien faire en fait, et que ouais. Bah, si on leur propose ça et que c'est payé, bah après tout ils se disent bah merde, enfin si c'est ça ou rien, je préfère encore ça. Ouais. D'autres préfèrent garder le silence, et moi je respecte totalement ça. Simplement, 10 mois après le début de la crise, 11 mois maintenant, est-ce que le silence, il y en a, ça suffit quoi ? Enfin. Moi, je comprends qu'au premier confinement, on s'est dit « Ah, c'est une espèce de parenthèse ouais. dans notre vie où bah voilà, on s'arrête à un moment donné. Enfin, » il y avait un truc philosophiquement presque intéressant à se dire « Il n'y a plus une musique, une note qui est jouée, on reste chez nous, on ouais. attend. » Et voilà. Sauf que là, ça fait maintenant…
Enfin, non.
Ça va faire deux confinements, peut-être un troisième qui nous pend au nez. Et que pendant ce temps-là, est-ce que la musique vit encore ? Est-ce que les artistes ont encore quelque chose à dire ? Bah, je pense que oui.
Oui.
Comment, par quel format on peut montrer ça ? Bon, bah, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Moi, je n'ai aucun jugement à donner pour ceux qui le font, ceux qui ne le font pas. Je pense que tout le monde fait comme il peut, avec les moyens qu'il a. Et voilà, il y a des pressions aussi, des politiques hein, aussi, pour nous pousser à faire des choses quand même, ou au contraire. Ouais. Il y a des choses très contradictoires qui se disent, qui se font.
Est-ce qu'il y a des aides ? Je crois qu'il y a des aides financières pour ces histoires de retransmission vidéo, de live stream.
Ça, j'avoue que je ne sais pas.
Eh bien si, moi je sais, parce que c'est mon ami Laurent Jariche qui m'a indiqué ça hier. La SACEM, alors tiens-toi bien, propose 76 €. Si ton concert qui dure de plus de 20 minutes, et il faut que tu joues tes chansons déclarées à la SACEM, bien sûr, tu es payé en droit d'auteur et tu touches les 76 € si tu as plus de 1000 vues. Ce qui est quand même énorme.
Ouais, j'aurais préféré que tu m'en parles pas.
Et après, alors 76 € pour 1000 vues, et après 1 000 000 d'euros par vue supplémentaire. Donc si tu as 2000 vues, tu as 77 €.
J'étais pas au courant, pour être très honnête.
Je signale d'ailleurs que mon ami Laurent Jariche, qui bah, lui, il joue le jeu parce que tout simplement, il le dit, ça me fait plaisir, ça me fait délirer de chanter. Voilà, il a envie de chanter, il a envie de jouer. Donc ce soir à 22 h sur la chaîne de YouTube de Upper Music, il y aura Laurent Jariche et souhaitons-lui les 1000 vues. La dernière fois, je crois qu'on en est. Bon, je vais pas dire le chiffre.
J'irai voir pour ajouter quelques vues du coup pour aider.
Alors attends, j'en profite pour signaler également ce soir à 20 h le lancement de la chaîne YouTube du collectif 11h11. Donc il faut taper sur YouTube 11h11 en lettres TV. Donc c'est l'épisode 1 avec Magic, Malik, Fanfare XP, 11h11 Orchestra et Alexandre Herrera Noon Attack. Et puis, alors, dans le genre de choses, et puis ça tombe bien parce qu'on va enchaîner avec un peu de musique quand même. À 23h35 ce soir sur Arte dans Trax, Julien Després pour la sortie de sa pièce numérique Agora. Donc Trax, c'est l'émission sur Arte. Est-ce que Arte, alors tu l'as évoqué un petit peu, est-ce qu'ils vont filmer là ?
On attend des réponses en fait. Là, ça va venir. Effectivement, on a déjà travaillé avec une boîte qui s'appelle Oléoprod qui filme soit pour Arte, soit pour France.tv. Ouais. Ils sont en attente de savoir s'ils ont des financements pour ça. Et surtout, on essaye de réfléchir à quel format on peut proposer qui sortirait effectivement du simple concert devant une caméra. C'est vraiment des choses qui vont se ficeler dans les prochains temps. Mais par contre, on a passé commande, et j'en parle parce que Julien Després est impliqué dans ce projet, c'est qu'on a passé commande à un artiste visuel qui s'appelle Romain Hall, qui fait de la modélisation 3D, qui fait un travail graphique, vidéo, qu'on a trouvé intéressant. Et on lui a passé commande de ce qu'on appellerait deux anti-captations, où en gros, il va filmer les groupes Abakashi, dont on va entendre un morceau là, et un groupe qui s'appelle Pomme de Terre, qui est un trio qui devait jouer avec Julien Després, Aymeric Avis et Étienne Ziemniak.
Ouais.
Et ils vont aller tourner sous le format un peu de performance, avec création vidéo et des performeurs, dans une friche du domaine Chériou, là où on a nos bureaux, à Vitry-sur-Seine. Et voilà, on a essayé de voir avec eux ce qu'on pouvait imaginer un peu original et qui permette en tout cas de maintenir un niveau de créativité et un niveau d'ambition créative assez important. Donc bah voilà, chacun pourra se faire un avis sur ce que ça donne, mais en tout cas on tente des choses.
Très bien. Alors, je vous propose d'écouter Abakashi. Donc, c'est Julien Després.
C'est un extrait inédit, donc en exclusivité sur Radio Libertaire, du prochain disque du trio Abakashi qui sortira dans les prochaines semaines, prochains mois.
Super. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs, radio-libertaire.net ou anarchiste.info. On vient d'écouter Abakashi, le groupe de Julien Després. Alors, peut-être, on parlait de radio, il y a un regain d'intérêt pour les radios actuellement. Et y aura-t-il des, pour ce qui va être sauvé de son hiver, des possibilités de diffusion hertzienne? Je pense notamment à hertzienne, c'est-à-dire dans le poste, tu vois.
Oui, oui, j'entends.
Et via France Musique, par exemple, allez, soyons fous.
Bah, Anne Montaron, qui est fidèle à Météo où j'étais avant, et puis à son hiver aussi, effectivement, avait prévu de venir capter certains des concerts, en tout cas, qui étaient prévus en théorie. Au final, ce qui va être sauvé, c'est qu'elle va enregistrer le concert de fin de résidence, donc ouvert aux uniques professionnels de Didier Petit, un projet qui s'appelle Les Mondes d'ici, qui aura lieu à Ivry, et qu'elle va enregistrer et qui sera diffusé prochainement dans une émission de À l'improviste. Donc ça, c'est prévu. Ensuite, on essaye de nouer ici ou là des partenariats avec des radios. Donc tout ça, c'est en construction. Donc bon, je ne peux pas encore forcément en parler un peu dans le détail, mais une chose dont je peux parler, c'est deux commandes de création radiophonique qu'on a faites. Alors, qu'est-ce que j'entends par création radiophonique? C'est des pièces musicales, mais pas forcément que. Ça peut faire appel à des bribes d'interviews ou des archives audio ou des... Et donc il y a deux projets très spécifiques qui vont être faits. C'est déjà, il y a eu une commande qui a été passée à Mats Gustafsson, le saxophoniste suédois qui vit en Autriche, qui devait jouer au festival, qui ne pourra pas jouer évidemment, qui a une connaissance assez importante de ce que lui appelle en allemand le Hörspiel. C'était des pièces radiophoniques, de théâtre radiophonique ou pièces qui font appel aux médias radiophoniques, mais construites autour d'archives, de langage, de dialogue, de musique, de voilà. Et donc je lui ai proposé d'en construire une. Donc voilà, là il va travailler sur ça et on aura le résultat autour de la mi-février. Donc ça sera disponible sur la plateforme de son hiver qui est en train d'être construite. Et il y a une commande originale qui a été passée aussi à Anne Montaron pour un projet par rapport à un projet qui devait avoir lieu au MACVAL, donc au Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne, autour du guide audio-naturaliste Marc Namblard, qui devait, outre la projection d'un documentaire, une conférence, faire une performance in situ dans l'espace du musée avec des improvisateurs et improvisatrices, avec Michel Doneda, Léquanine et Émilie Scrigelge. Comme ce ne sera pas possible, ça c'est un projet qui a priori va être reporté un peu plus tard dans l'année, sans doute à l'automne, où on verra quand ça sera possible. Le musée tient à ce que ça puisse se faire, parce que son exposition, c'est en lien avec une exposition autour de l'homme et la nature. Donc ça va se faire sans doute un peu plus tard. Mais j'ai demandé à Anne Montaron en fait, de partir... En fait, ils vont partir, donc tous les quatre, Marc Namblard, Léquanine, Michel Doneda, Émilie Scrigelge, avec Anne Montaron et un preneur de son, dans les Cévennes, dans la forêt, au bord des ruisseaux, etc. Et ils vont un peu, comme ça, faire une sorte de déambulation dans la nature, où ils vont à la fois écouter les sons de la nature, à la fois des échanges vont se nouer sur les relations entre l'homme et la nature ou l'importance de la nature dans leur art, dans leur vie de musicien et d'artiste. Anne Montaron va essayer de ficeler tout ça pour rendre des... Et il va y avoir des performances in situ dans la nature, des improvisateurs, Doneda avec son saxophone, Nine avec des pommes de pin, des cailloux, tout ce qu'on peut imaginer, et Émilie avec des instruments aussi qui seront à déterminer sur place. Et Anne va faire une création radiophonique autour de ça, un moment un peu original, et on pourra entendre ça sur la plateforme de son hiver, peut-être aussi... on verra est-ce qu'on arrive à obtenir d'autres médias partenaires pour pouvoir diffuser au maximum cette création originale. Et j'ai encore une ou deux idées, on verra ce qui se concrétise au final, mais dans ce registre.
Très bien, très bien.
Donc et ça, alors... c'est dans l'ordre de la création radiophonique. Et après, on va lancer une série... Enfin, il y a deux choses. parce que finalement on fait quand même des choses, hein. Et on va lancer une série de podcasts qui sera menée par Guillaume Malvoisin, qui travaille avec nous depuis un moment, et qui une podcast sur le thème qui va s'appeler Influence, un peu sous le format des séances d'écoute qu'on a pu faire ces dernières années, où en gros il va demander aux musiciens et aux musiciennes sélectionner 3-4 disques ou 3-4 morceaux d'artistes qui ont marqué leur vie ou changé leur vie ou qui leur ont donné envie d'être musicien ou qui ont fait une césure importante dans leur carrière d'artiste, ouais. Et les faire parler un peu sur ça dans un format qui va faire entre 15 et 20 minutes sur plusieurs artistes. Ça c'est quelque chose qu'on va faire. Et dernière chose qui est en construction, on va faire une table ronde qui sera enregistrée aussi et disponible sur la plateforme de son divers, et peut-être que d'ailleurs ça peut intéresser Radio Libertaire de diffuser ça. Ça sera mené par Alexandre Pierrepont, anthropologue et qui est spécialiste des musiques improvisées, et des musiques afro-américaines aussi.
Initiateur de The Bridge.
Initiateur du réseau The Bridge qui fait voyager en théorie. Bon, ils ont bien du mal en ce moment eux aussi à faire voyager les gens, mais qui font collaborer en tout cas des musiciens américains et des musiciens français. Et qui va monter une table ronde avec un certain nombre de personnes, par exemple Yves Citon qui est philosophe, ou Jean Rochard qui est patron de label, ou ici une directrice d'un club de jazz, mais aussi quelqu'un qui viendrait, qui serait un journaliste par exemple. L'idée, ça serait, on est en train de définir un peu les axes et les thématiques, mais l'idée, ça serait d'élever un peu le débat, on va dire, et de sortir de l'actualité immédiate de, si ce n'est penser le futur, penser l'après, au moins voir quels enseignements on pourra tirer de tout ce qu'on est en train de vivre, à la fois sur les domaines artistiques qui nous préoccupent, mais aussi peut-être dans un cadre un peu plus général. Je pense que ça peut être aussi intéressant, et du coup on va se faire l'écho un peu de ces réflexions et de ces débats.
Écoute, nous ça nous intéresse en tout cas dans notre émission.
On peut en reparler ensemble. Si vous voulez venir mettre un micro, ça sera avec plaisir.
Oui. Allez, puis alors Émile Scriet, il en sera question la semaine prochaine lors de l'émission consacrée à Tom Malmandier. Effectivement, ils font ce duo, pas mal de captations en extérieur. Donc
absolument, je sais qu'ils l'ont fait au Festival Météo, ils ont fait ce qu'ils appellent des presqu'îles, je crois.
Oui, c'est ça, exactement.
J'ai vu ça. Et donc Émilie sera avec ses artistes, et je pense que ça peut être quelque chose d'un peu original, et je fais confiance totalement à Anne Montaron pour essayer de faire quelque chose qui sera vraiment intéressant.
On l'a reçu en décembre dernier, c'était une super émission de radio sur la radio, alors moi ça m'a fait plaisir.
Ah ouais, super.
Et donc Émilie, alors nous on comptait aussi profiter de sa venue en région parisienne pour l'interviewer, mais bon.
Voilà, bon, là, pour février, ça risque d'être un peu râpé, mais
on sera patient.
Mais bon, il y aura d'autres occasions.
Mais alors, il me souvient que l'an passé, peut-être même l'année d'avant, tu organisais des séances chez nos camarades disquaires du Souffle Continu. Tu sais que Zone de Silence, donc Coax, Les Instants Chavirés et Sony Protest ont organisé une journée de retransmission de concerts sur pas mal de radios internet et tout ça, et dans des lieux comme dans des librairies, des médiathèques, des disquaires. As-tu suivi cette initiative? Est-ce que ça t'a peut-être donné des idées ou...
En fait, je pense que oui, j'ai suivi, bien sûr. J'ai écouté en partie, pas tout, mais j'ai écouté. Il y a eu d'autres initiatives aussi. J'essaye de me tenir un peu au courant de ce qui se fait dans cette période parce que ça m'intéresse, intellectuellement parlant. Et puis, ça m'inspire aussi potentiellement pour des choses qu'on peut faire en ce moment ou qu'on pourra faire peut-être dans le futur. Donc, j'ai suivi un petit peu ça. C'est vrai que ça faisait 2 ans qu'on faisait une séance d'écoute en direct du Souffle Continu, et qui était une fois avec Ivan Parker et l'année dernière avec Fred Friis. Franchement, c'était super. Simplement là, le faire sans public, je trouvais que c'était vraiment... parce que bon, avec combien de personnes ils peuvent accueillir au Souffle Continu?
Parce que j'allais dire, les commerces sont autorisés à ouvrir.
Oui, mais il y a un nombre prévu par mètre carré. Et dans un petit espace, ils doivent pouvoir accueillir, j'imagine, enfin, je parle en théorie, sans doute pas plus que 4-5 personnes. Monter tout ça pour se faire devant 4-5 personnes, on s'est dit que c'était pas forcément adapté, mais voilà, j'imagine qu'on aura plein de choses à imaginer ensemble à l'avenir, mais bon, voilà, il y avait des choses qui étaient pas forcément imaginables.
Et alors, tu parlais d'aller dans les Cévennes et tout ça en plein air, mais il y a un truc qui est pas très clair pour moi. Les concerts en plein air sont interdits.
Mais c'est des gens qui se baladent avec un instrument de musique dans
non,
dans
d'accord,
une forêt.
C'était une question. Est-ce que là,
alors les concerts en plein air, est-ce qu'ils sont interdits? J'en sais rien. Alors, je pense qu'en plein hiver, il y a peu de gens qui s'y tentent. Hein, quand même.
Voilà, c'est ce que j'allais dire en plein hiver.
Mais là, c'est pas vraiment un concert en l'occurrence. Hein. C'est un enregistrement d'une émission, d'une création radiophonique avec des gens qui se baladent en forêt et qui éventuellement décident de faire de la musique avec des cailloux, des pommes de pin et un saxophone. C'est très différent.
Ce que je voulais savoir, c'est si toi, tu as envisagé de faire des concerts en plein air. Est-ce que ça...
Par zéro degré, c'est... Non.
Non ?
Non.
Non, non.
Ben non. Un guitariste qui joue en dehors pendant une heure avec cette température, on ne peut pas jouer. Ouais. Un saxophoniste non plus. Non, c'est... Sincèrement, alors tu peux peut-être faire des happenings de quelques minutes, potentiellement. Mais si c'est pour aller envoyer des musiciens faire un happening dans un supermarché, ça sera sans moi. Quoi.
Bon, bah, je propose qu'on reste en plein air avec. On va écouter.
Ouais, on peut écouter un peu quelques minutes d'un projet que Marc Namblard, le guide audio-naturaliste, que j'avais découvert moi au Festival d'Ancité, dirigé par Emmanuel Pellegrini, qui est un type vraiment super et qui collabore avec des improvisateurs aussi dans certains projets. Et qui, là, avait eu une commande d'aller faire un portrait sonore d'une nuit cévenole.
Très bien. Et on écoute Marc Namblard. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, qui ne se déroule pas dans les Alpes, mais bien dans le studio parisien de la radio. Nous écoutions l'audio naturaliste Marc Namblar. Alors bon, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, comme tu as dit en antenne, Fabien Simon, donc notre invité aujourd'hui pour parler du festival Sons d'Hiver. On aurait pu dire quelques mots de la programmation que tu avais prévue, mais peut-être, moi j'ai une question concernant les... Parce que historiquement, Sons d'Hiver, il y a souvent invité des musiciens américains, mais même des légendes hein, du jazz américain. Là il en était encore question. Et je voulais savoir si tu as des nouvelles de ce qui se passe aux États-Unis pour tous ces valeureux musiciens.
Bah, un petit peu, oui. On est en contact avec certains d'entre eux. Ce que je peux dire, c'est que c'est très très dur et autrement plus dur encore que ce qu'on vit ici.
Ah oui, pourquoi?
Pourquoi? Parce que l'intermittence du spectacle n'existe pas aux États-Unis et que quand ils ne jouent pas, ils ne gagnent rien. Et que comme ils ne jouent pas depuis des mois, et ben, ils ne gagnent rien depuis des mois.
Ah oui.
Donc on le sait, alors pas parmi les plus connus, hein, évidemment, ouais. Mais même pour eux, il y a des difficultés. Quelqu'un comme William Parker, avec qui on est très lié, fait beaucoup de streaming aussi pour faire vivre la fondation qu'ils ont et a fait des appels aux dons justement dans ce cadre-là pour faire... aussi aider les musiciens de sa communauté, mais on sait que certains musiciens ont dû retourner travailler, évidemment, parce qu'ils peuvent pas attendre 10 mois sans gagner d'argent, c'est impossible.
Ouais, bien sûr.
Certains sont venus travailler, d'autres. D'autres, je sais, dorment dans leur voiture ou c'est très.
Là, tu as des exemples concrets de ça?
Oui, mais donc, je ne dirais pas les noms, évidemment. Mais oui, il y a des exemples concrets. Il y a des cas vraiment un peu dramatiques, oui, de tout ce qui se passe. Et, ils ne peuvent plus voyager, ils ne peuvent plus jouer. Parce que nous, on a pu en plus rouvrir un peu pendant quelques mois. Là, on a eu une fenêtre un peu où on a pu rejouer. Mais eux, il n'y a rien qui a rouvert. Aucun lieu n'a rouvert. Donc, ils font énormément, effectivement, de streaming. Pour sauver un peu les meubles, parce que ça, ils ont le droit de le faire, alors ils le font, parce que ils n'ont pas le choix non plus. Hein. C'est que on peut parfois avoir une posture comme ça sur ces nouveaux formats. On est contre, on n'a pas envie, c'est pas intéressant. Et puis il y en a, ils n'ont pas le choix en fait. C'est ça ou rien. Oui, la situation est vraiment très, 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 très complexe. Je pense que ça interroge aussi leur modèle économique, entre guillemets, où en gros une partie de ces artistes font la majorité de leur argent et de leur travail en Europe. Et dans une période dans laquelle on vit, où en gros ils ne peuvent pas venir en Europe, du coup ils n'ont plus aucune source de revenus. Ça interroge aussi le réseau de diffusion de ces musiques aux États-Unis, qui n'est pas sans doute assez grand. Il y a très peu de subventions. C'est souvent basé sur des fondations ou des dons privés. C'est vraiment totalement un autre modèle que le nôtre. Je partage leur peine. J'aurais aimé que cette année, ce soit possible d'en faire venir quelques-uns, au moins pour soutenir ceux qu'on pouvait faire venir.
Tu avais pensé à qui ?
Il y a beaucoup d'artistes qui devaient venir cette année. Joshua Abrams, Hamid Drake. Alors Hamid, il est en Italie en ce moment. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que certains, quand ils ont pu et quand ils avaient la possibilité, sont venus dès qu'ils pouvaient en Europe, en pensant à un certain moment que du coup, ils pourraient rejouer assez rapidement en Europe. Finalement, les occasions ont été quand même, somme toute, assez limitées.
Et alors qu'en est-il, parce qu'une des autres spécificités de Sons d'Hiver, ce sont, comment dire, sans utiliser un terme que je n'aime pas, qui est musique du monde, les musiques non occidentales, on va dire.
Moi j'appelle ça les musiques des peuples du monde.
Ouais, allez.
Ce qui est un peu différent.
Oui. Il y avait les maîtres de...
Les maîtres musiciens de Jajouka.
De Jajouka, par exemple.
Qui sont marocains. En fait, ça... Les musiques traditionnelles nous intéressent quand elles peuvent se croiser avec des musiques issues de l'idiome du jazz.
Ouais.
Ou alors que ça soit en résonance avec ce qu'on appelle le jazz. Donc il y avait plusieurs projets qui étaient prévus autour de ça. Donc on devait recevoir par exemple Fez Ali Fez, qui est un maître musicien soufi pakistanais. Ce qui nous intéressait, on avait construit une programmation de cette soirée autour de la trance, avec donc ce registre-là. Il se trouve que ces musiques-là, indo-pakistanaises, soufis, ont été des sources d'inspiration pour beaucoup de grands compositeurs de jazz, type Coltrane. Ou, oui. Voilà. Et du coup, ça nous intéressait dans ce sens-là. Et il y a des points de rencontre très clairs qui sont aussi autour de cette notion de trance. Et avec le projet de Joshua Abrams, Natural Information Society, il y avait vraiment cette concordance entre les deux sur cette idée de la trance et de comment elle pouvait être appropriée de manière différente. Donc on avait imaginé ça. On avait imaginé effectivement un concert avec les maîtres musiciens de Jajouka. Ils ont historiquement travaillé avec Ornette Coleman, Artie Shepp ou même Brian Jones des Rolling Stones, ah, avec énormément d'artistes. Et les ancêtres, hein, maintenant c'est souvent les fils d'eux, mais ils perpétuent cette tradition, donc avec Bill Laswell aussi. Et ils ont cette tradition de la rencontre. Donc on avait prévu une rencontre avec un certain nombre de musiciens américains et britanniques, notamment pour croiser un peu ces musiques. Et ce qui est intéressant, c'est de toucher à l'universel quand des musiciens marocains peuvent, à travers la musique, collaborer, faire de la musique avec des Américains, mais pourquoi pas des Japonais, etc. Oui. Là, on touche à quelque chose d'universel qui devient vraiment intéressant. Et la musique est un langage universel pour ça. Et oui. C'est ça qu'on essaye, par ces rencontres, de suggérer ou de montrer.
Dans le territoire du Val-de-Marne, alors je voulais savoir, maintenant, c'est plusieurs années que tu es à la tête de Son d'hiver et que tu es implanté, on va dire, dans le Val-de-Marne.
Ça fait 3 ans, ça fait pas si longtemps non plus.
Ah oui, ça fait 3 ans, oui, ouais. Exact. Et alors, avec ce recul, ce territoire te semble-t-il propice à des, à une singularité musicale? T'inspire-t-il en tant que programmateur? As-tu décelé une identité
Val-de-Marnaise? Ouais. Peut-être j'aurais besoin encore d'un peu plus de temps pour le savoir. Un département en région francilienne, forcément, d'une commune à une autre, ça peut être totalement différent. On peut pas comparer Vincennes à Arcueil ou Ivry-sur-Seine. C'est vraiment. C'est, et puis il y a des endroits dans lesquels on va assez peu, finalement, très ruraux, vraiment à la frontière d'autres départements, ou alors c'est totalement encore autre chose, quoi. On est quasiment plus à Paris, alors que Ivry, on est vraiment c'est Paris.
Bien sûr.
Donc c'est assez difficile, je trouve, en aussi peu de temps, d'avoir une cartographie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est c'est un territoire intéressant justement par sa diversité, de la population, mais la diversité aussi d'architecture, de politique aussi, les différences politiques qu'il peut y avoir d'un endroit à un autre du département. Ce que je peux dire aussi, que c'est un département qui est très bien équipé en théâtre, salle de spectacle. Ce que je peux dire aussi, c'est que le département du Val-de-Marne soutient la culture quand même massivement et beaucoup plus que beaucoup d'autres départements, et Son d'hiver en profite largement. Voilà, je continue mon apprentissage de ce territoire, mais il y a encore plein de choses à découvrir. Après, bon, là, c'est sûr que cette année ne nous a pas permis forcément d'étendre nos connaissances particulièrement.
Oui. Il y a aussi une diversité de lieux, des choses incroyables.
Oui, complètement.
Et alors, il y a 30 ans, sous la présidence de Michel Germain, ont été créés plusieurs festivals. Travaillant dans le cinéma, je me souviens très bien de Ciné Junior.
Et qui existe encore.
Qui existe encore, bien sûr, on fait toujours ça dans les cinémas. Et quelques temps après, eh bien, Son d'hiver, il y a 30 ans, donc cette année devait célébrer...
C'était la 30e édition du Festival Son d'hiver en 2021. Bah, ce sera toujours, mais ce sera une édition marquée sous un sceau très
particulier.
Très particulier, mais ça, alors, c'est sûr. On s'en souviendra, en tout cas. Hein, ça, c'est 30 ans.
Mais vous avez lancé une initiative discographique, me semble-t-il.
Oui, alors on n'a pas de label à Son d'hiver à proprement parler, mais quand on a commencé à réfléchir avec l'équipe de ce qu'on pourrait faire pour les 30 ans du festival, on s'est dit plutôt que de faire des masques siglés sans divers, peut-être ce qu'on t-shirts. Pourrait faire, ça vous des t-shirts, on se dit, on aimerait bien faire un objet avec une valeur artistique, en tout cas.
Oui, masques, donc, oui, j'avais pas compris. Voilà,
donc, on s'est dit, pourquoi pas faire un disque, mais ne pas forcément se contenter d'une compilation qu'on demanderait de morceaux déjà existants à des artistes avec lesquels on travaille, mais de leur passer commande à chacun d'une pièce originale pour un disque sur une thématique particulière entre guillemets, avec un titre où le disque s'appelle We Have Something to Tell You. Ouais. Nous avons quelque chose à vous dire. Ça fait référence évidemment au disque historique de free jazz assez engagé, et ça dit quelque chose de l'esprit du festival Son d'Hiver, qui est un festival qui s'est toujours soucié du contexte social, politique, ouais, et culturel des musiques qui sont défendues par le festival. Et donc, du coup, on avait envie de faire un objet comme ça qui existe du coup en format numérique sur la plateforme Bandcamp, et uniquement sur la plateforme Bandcamp.
Ah, d'accord.
Donc chacun peut aller voir sur la plateforme, l'adresse est disponible sur le site internet du festival Son d'Hiver, et qui sort également en format vinyle. Et qui sera disponible là dans les tout prochains jours. Les précommandes sont possibles via la plateforme Bandcamp, mais on va les recevoir sans doute cette semaine. Voilà, c'est un bel objet. Il y a des très belles pièces avec des artistes qui... On a commandé ces pièces à des artistes qui ont une importance assez vraiment réelle pour le festival dans son histoire. Bernard Lubat, William Parker, donc des musiciens historiques, mais aussi des plus jeunes musiciens qui... alors, c'est pas du tout exhaustif, hein, évidemment, mais qui nous semble être la relève de ce qu'on a envie de défendre. Evry Serre, Julien Després, Mike Ladd ou James Randall Lewis en font partie.
Eh bien, peut-être on peut écouter Evry Serre.
C'est le morceau qui clôture le vinyle.
Thank you.
Evry Serre dans l'émission Les Oreilles Libres sur Radio Libertaire. Les Oreilles Libres consacrées aujourd'hui au festival Son d'Hiver avec Fabien Simon, son directeur. Alors Fabien, il y avait une expo photo également prévue. Qu'en est-il ? Et peux-tu nous parler de Jacques Biseglia ?
Alors effectivement, on avait prévu une exposition photo autour de Jacques Biseglia, donc qui est un photographe de jazz, mais pas que, hein, qui était une personne très importante dans le monde du jazz, notamment à l'arrivée des Américains, d'une partie des musiciens afro-américains à la fin des années 60, début des années 70. Il est devenu très ami avec certains, dont Don Cherry, puisqu'ils ont même cohabité ensemble pendant un temps. Il les a accueillis aussi au bateau, parce qu'à l'époque, ils ne venaient pas en avion. Hein, donc, ils faisaient la traversée en bateau et ils les ont accueillis au bateau pour les membres de l'Art Ensemble of Chicago, par exemple, pour les faire jouer. Et donc, ma collègue Armelle Bouliung s'est occupée, effectivement, de réunir avec les ayants droit de Biseglia une série de photos, et avec Michel Dormont aussi, du label Regard, une série de photos un peu inédites ou qu'on n'avait pas encore vues ou qu'on avait un peu oubliées de moments de légende comme ça avec des artistes afro-américains à Paris, mais aussi à Tanger. Et ça devait avoir lieu dans la galerie d'exposition de l'ECAM, le théâtre du Kremlin-Bicêtre. Bon, vu les circonstances, on a décidé de reporter cette exposition à l'édition en 2022, puisque bon, il nous semblait quand même que c'était important d'avoir fait tout ça pour que ça puisse être découvert par le public et que là, en ce moment, c'était pas possible de faire venir les gens pour voir cette expo. Donc, on la fera en 2022. Ça faisait partie des choses qu'il était possible de reporter.
Alors, tu as un petit peu répondu à cette question, mais je voudrais que ce soit clair. Avec les concerts annulés, est-ce que si j'ai en main, tu vois, là j'ai en main la brochure de cette année de la...
Toi, t'as le dossier de presse, mais la brochure, elle n'a pas été imprimée, donc je ne peux pas l'avoir, Christophe.
Je voulais faire croire, oh là là, tu me casses mon truc. Bon, alors oui, j'ai le dossier de presse en main, et le dossier de presse de l'édition 2021. Est-ce que, en ayant ce dossier de presse en main, est-ce que j'ai la programmation de l'édition 2022 ?
Non.
Non, hein, tu nous as dit ça.
Il
hein.
Y aura sans doute quelques projets parce qu'on est coproducteur de certains projets, donc on est vraiment partie prenante de certains projets. Donc il y aura quelques projets qui sans doute auront lieu, mais c'est difficile de dire aujourd'hui exactement combien, comment. Ce qui est sûr, c'est qu'on a envie. Je ne crois pas au réchauffé, au copier-coller. La musique, ça bouge. Les esprits bougent. Les musiciens n'ont pas envie de jouer la même musique cette année. Il y aurait une espèce de quelque chose qui a été pensé en 2020 pour être joué en 2022. Le délai est trop grand pour les musiques qu'on joue, qui sont des musiques de l'instant, un peu de l'instantané. Donc, on veut... Déjà, on n'a aucune visibilité sur les mois à venir, donc c'était pas, ça semblait prématuré de s'enfermer dans un carcan, de dire on reporte tout, mais à quand, où, avec quel argent, on n'en sait rien. Donc, on est plutôt dans l'idée d'essayer de faire ce qui est possible là maintenant et de réfléchir plus tard à l'après et la prochaine édition. Inévitablement. Un certain nombre d'artistes qui étaient invités cette année joueront l'année prochaine, peut-être avec certains des projets prévus, peut-être avec d'autres projets, et puis il y aura d'autres choses aussi. Mais c'est la vie de la musique, c'est comme ça. On peut pas faire juste comme si un an ne s'était pas passé et de faire comme si 2022 c'était pareil que 2021. Ça sera autre chose, ça sera autrement, et on veut aussi se laisser la possibilité de penser peut-être des formats différents, d'apprendre de cette période pour éventuellement apporter d'autres choses à l'édition 2022. Et pour ça, faut qu'on ait le champ libre, entre guillemets.
Bah oui, bien sûr. Oui. Et alors, en dehors du festival, tu l'as dit tout à l'heure, tu vas peut-être, dans la période où ça a été possible, tu as vu des concerts. J'aimerais bien que tu nous fasses part de découvertes, de trouvailles à conseiller à nos auditeurs qui sont curieux, je te le rappelle.
Ah oui, bah j'espère bien. écoute... j'ai vu déjà assez peu de concerts. En dehors du festival Son d'Hiver 2020, j'ai dû voir en septembre et en octobre peut-être 7-8 concerts.
Ah oui.
C'est tout ce que j'ai vu à peu près.
Bon, après, tu dois recevoir des disques.
Je reçois des disques, effectivement. Non, mais il y a eu des pépites. Là, c'est vrai qu'il faudrait que je me replonge dedans. C'est vrai que je suis tellement. Ouais. Tu m'avais pas préparé à cette question, Christophe. Bon, donc, du coup, tu me prends au dépourvu.
On n'est jamais préparé à aucune question dans les oreilles libres. Ça, c'est la règle.
Non, bien sûr. Mais non, j'ai eu des coups de cœur sur des disques. Je pense à un disque en particulier qui m'a vraiment. Ou un artiste en particulier qui m'a vraiment. Où j'ai écouté deux disques qui m'ont. Renversé cette année, c'est Rob Mazurek, ouais. le cornettiste, avec deux disques, un du Chicago Underground Quartet avec Chad Taylor et Jeff Parker et un autre artiste dont le nom me vient pas là, et un projet qui s'appelle Exploding Star Orchestra, qui est son grand ensemble, dont le dernier disque est sorti sur le label, un super label qui s'appelle International Anthem. Et c'est vraiment deux disques qui m'ont assez remué cette année et qui sont encore dans mon esprit au moment que je te parle. Et c'est la première chose qui me vient en tête, donc souvent ça veut dire quelque chose. Et c'est deux disques que je conseille vraiment aux auditeurs des oreilles libres.
Merci pour ces conseils éclairés. Alors tu sauras que l'an prochain, puisque j'espère... que tu reviendras parmi nous l'an prochain, je te poserai la même question. De savoir
j'aurai peut-être plus les idées. De savoir des petites idées un peu plus claires. J'espère que j'aurai vu beaucoup plus de concerts aussi.
Mais oui, on aime bien savoir.
On se le souhaite.
Connaître tes tuyaux. Alors bon, t'es pas trop démoralisé, ça va, t'as la...
Ouais, j'alterne le haut et le bas. Hein. Bon. Je pense que, un peu comme tout le monde, là, d'essayer de réinventer un peu quelque chose, ça permet de rester d'être dans l'action, donc on pense pas trop au reste, mais oui, dis-moi, j'en ai marre comme tout le monde, hein, de devoir rentrer à l'heure, de pas avoir de concert, de pas aller au cinéma, de pas aller au théâtre. Pour moi, c'est quelque chose d'assez insupportable à titre personnel. Ouais. Donc il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais voilà, quelque part on est tous dans le même bateau.
Ouais, exactement. Alors, est-ce que tu... Donc, on encourage nos auditeurs à aller sur le...
Ouais, le mieux, c'est de suivre, effectivement, ce qu'on va pouvoir vous proposer dans les prochains jours, prochaines semaines, sur notre site internet, où les informations seront mises au fur et à mesure qu'on a pu les récolter. On va essayer d'agencer ça au mieux dans un délai très court. Mais oui, gardez l'œil sur les réseaux, sur notre site internet, de ce qui se passera. Et puis, on vous tiendra informé, bien sûr, de l'avenir, du futur.
Eh bah oui. Oh là là, ça va s'arranger, c'est certain.
C'est certain.
Nous, ici, on fait un appel pour une émission qui aura lieu au mois de mars. Alors, la date commence à se préciser, je ne sais plus laquelle, mais peut-être vers le 20 mars à peu près. On va faire une longue émission sur la Commune de Paris, dont on va célébrer les 150 ans. Donc nous faisons un appel à participation si vous voulez participer. Il s'agit de mettre des textes alors historiques, des biographiques, autobiographiques, des correspondances, des poèmes, il y en a également. Enfin, il y a tout un corpus de textes autour de la Commune de Paris assez important. Où il y a même des chansons aussi, vous pouvez reprendre des chansons ou reprendre des textes de chansons interprétés différemment. Et ben vous nous envoyez ça en format WAV et AIF, c'est-à-dire pas le format de Windows, mais pas en MP3 non plus, pour que ce soit un peu de qualité radiophonique, à l'adresse lesoreilleslibres@free.fr. C'est ça. Et voilà. Donc, avant le 1er mars. La semaine prochaine, Tom Malmandier. Alors, il ne sera pas dans nos studios. On l'a enregistré au Festival Météo en août dernier, lors de son concert avec la formation Nuit. Merci beaucoup, Fabien, d'être
passé. Merci à toi, Christophe.
On se quitte avec, quel regret de ne pas les voir aussi, les excellents néerlandais de Rubatong. Et salut, Fabien. Salut à tous.
Salut.
À 17h30... Là, j'en suis sûr, puisque nous n'avons pas encore le confinement à 18h, à 17h30. Il y aura nos amis Guy et Hubert de Radio Esperanto. Allez, salut! It's the end of September. The wind's announcing fall. High time to remember the ones I cannot recall. Oh, too many
days, phases and days. This is for the ones I met in May. You made me sleep in your death damn bed. Fading pictures on the wall of a virgin I never met. Oh, how I craved for the sun to show up and stay. Later that year, the big sea got you and soon you pass away. Bound to be a poet. You wrote me things I didn't get. You were different and you showed it. Amongst us, you were the better one, I bet. Without a trace in the clouded sky, ones I never even seen to look for, ones feeding my dreams, they went by, they're alive and living under my bedroom floor. On fire, came to my place, stuck here in denial. Well, I simply failed to get you back on your feet. No way you'd ever meet without me. Took a train to get to you, and you showed me things that to me were new. You got stuck in a mind-blowing script, till it took a train to decapitate you. Without a trace in the clouded sky, the ones that I seemed to ignore, ones feeding my dreams as they walk by, they're alive and living under my bedroom floor, they're alive and living under my bedroom floor.